Frères et sœurs, les amis, je vous retrouve par le biais de cette méditation pour ce troisième dimanche de Pâques. D'abord, j'espère que vous allez bien, que vous vivez ce confinement de manière chrétienne, c'est-à-dire dans l'abandon, puisqu'on voit bien que de jour en jour, on ne peut pas véritablement échafauder des projets à moyen terme et encore moins à long terme. Et donc cet abandon est un point très important de la vie intérieure et de la vie spirituelle. L'abandon, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas non plus le fatalisme, ce n'est pas non plus la résignation, mais c'est être bien conscient que je ne suis pas l'auteur de ma propre existence, premièrement, que deuxièmement, Dieu est maître souverain du temps et de l'histoire, et que c'est dans ces deux éléments que je viens de rappeler que nous nous jetons consciemment entre les bras de Dieu et de la Vierge Marie, bien sûr, que nous n'oublions pas, pour au jour le jour, eh bien accueillir sa présence. Alors nous accueillons sa présence au travers de cet évangile extrêmement bien connu, qui est celui des disciples d'Emmaüs, très beau. Je crois que à un moment de notre existence, on se dit, enfin, moi je me le suis dit à moi-même d'abord, qu'on aurait aimé être à la place des disciples d'Emmaüs pour entendre en direct de la bouche même du Christ, une catéchèse vétérotestamentaire, c'est-à-dire une catéchèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc je ne vais pas m'étendre longuement sur cet évangile si beau, car il demanderait plusieurs heures de méditation. Donc prenez le temps de le méditer tout au long de cette semaine. Cette troisième semaine après Pâques, je relèverai un ou deux petits points simplement. Il fait toujours partie de la technique d'écriture de la parole de Dieu, à savoir ce parallèle entre deux formules que nous avons entendues, que vous pouvez retrouver sur le texte. Leurs yeux étaient aveuglés, au verset 16. Et alors leurs yeux s'ouvrirent au verset 31. Et entre le verset 16 et le verset 31, il y a ce qu'on appelle en technique d'écriture une inclusion. Mais cela veut dire tout simplement que les deux disciples d'Emmaüs sont passés, comme du reste j'ai eu l'occasion de vous le dire, du plus profond, il faut se mettre à leur place, découragement, pour pas dire désespoir, à l'enthousiasme, simplement parce que leurs yeux se sont ouverts. Tant de fois, je vous parle de l'intelligence du cœur, je vous parle du regard de l'intelligence du cœur, c'est-à-dire que au regard que nous portons au travers de l'organe de la vue que la nature nous a donné, il faut porter immédiatement et surtout avec la parole de Dieu ce regard de l'intelligence du cœur. C'est exactement, exactement ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. Pourquoi leurs yeux se sont ouverts? Eh bien, tout simplement parce que Jésus leur a expliqué les Écritures. Vous l'avez entendu comme moi, partant de Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua, etc., dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Alors, vous me direz, c'est une réponse tout à fait évidente à cette question, pourquoi les yeux des disciples se sont ouverts. Mais ça nous rappelle que la personne du Christ est le moyeu, le pivot, le centre de l'écriture. Et elle ne peut se comprendre, cette écriture, qu'en fonction de lui, tout simplement. Quand je dis tout simplement, ça ne veut pas dire que les choses sont simples. Au sens simpliste, mais au sens de c'est une évidence. Permettez-moi de vous citer ce que saint Paul, mieux que je ne pourrais le faire, accrédite dans la seconde lettre aux Corinthiens, ce que je viens de dire. Leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à ce jour. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. C'est très beau cette phrase. Le voile est comme absorbé par la personne du Christ, le voile de l'Ancien Testament. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 14 et 17, qui sont, à mon avis, très éclairants pour ce que je viens de dire. Saint Paul nous dit tout simplement qu'à partir du moment où on croit en Jésus-Christ, l'Ancien Testament ne disparaît pas, mais le voile se soulève sur l'Ancien Testament, et alors à ce moment-là, il s'éclaire de la lumière de la présence du Christ. Voilà. Alors bien sûr, chacun comprendra qu'il ne faut pas réduire l'Ancien Testament pour autant à une sorte de faire-valoir du Nouveau Testament. Mais tout simplement, nous redire que nous ne pouvons pas, et je vous le rappelle très souvent, faire l'impasse de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau. Et le Nouveau éclaire l'Ancien Testament et nous le dévoile. Alors, cette catéchèse que le Christ fait aux disciples d'Emmaüs se conclut au verset 26. Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? Alors, c'est une sorte d'interrogation. Alors il y a un petit problème, mais qui est facile à résoudre, de cette formule qui peut prêter à une double lecture. La première lecture dans laquelle, hélas, bien des chrétiens peuvent tomber ou tombent trop souvent, c'est d'imaginer que cette phrase implique qu'il y a un plan préétabli, que tout était combiné d'avance, que Jésus connaissait tout à l'avance, le déroulement des événements, et qu'il n'y avait donc plus qu'à exécuter le programme. Alors, il y a des personnes qui voient les choses comme ça. Alors dans ce schéma, bien sûr, Judas ne serait que l'exécutant d'une pièce écrite d'avance, voilà. Mais cette lecture est dangereuse parce que c'est une tentation qui trahit complètement les Écritures. Elle présente la relation de Jésus à son Père en termes de mérite, ce qui n'est nullement conforme à la révélation de tout l'Ancien Testament et que Jésus a développé à son tour. Dieu n'est qu'amour, don et pardon, et avec lui il n'est pas question de mérite, d'arithmétique, de calcul, voilà. Alors ça, c'est une lecture évidemment extrêmement dangereuse. Et il y a une deuxième manière de lire. Il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. C'est de nous rappeler ce que veut dire étymologiquement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le poids de sa présence. Alors, le poids n'étant pas un mot, un terme négatif, comme si un poids très lourd, mais c'est une présence très forte. Et cette présence qui se manifeste à nous. Alors, on pourrait traduire la phrase en question, il fallait que le Christ souffrît pour que l'amour de Dieu soit manifesté et révélé. Eh bien, il y a un verset pour conclure, si tant est-il qu'on puisse conclure un si bel évangile, une si belle page de l'Écriture. On pourrait dire que la signature, l'autographe du Christ sur ce verset, « Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Eh bien, pourrait se résumer dans la bouche même de l'enseignement du Christ lorsqu'il dit à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Autrement dit, il fallait que l'amour aille jusque-là. Mais je dis, j'espère que entre chrétiens, et très spécialement dans un couple, dans une famille, dans de belles amitiés qui nous sont données de vivre et de rencontrer durant notre pèlerinage sur la terre, eh bien nous sommes capables d'aller jusque-là, de donner notre vie parce que nous aimons nos frères. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas tout de suite, on penserait à donner sa vie, à mourir pour nos amis. Non, mais je pense que le véritable, enfin j'en suis convaincu que le véritable amour, c'est se désapproprier de soi, donner de son temps, énormément de temps aux autres. C'est ce qu'on appelle la désappropriation de soi pour le bien de l'autre. Et si l'autre se désapproprie à mon égard, eh bien alors à ce moment-là, il y a une véritable construction, édification qui se met en place et que l'amour se consume au noble sens du terme sans pour autant disparaître comme une sorte de buisson ardent. Alors frères et sœurs, en ce temps d'épreuve que le monde traverse, et malheureusement ce n'est pas fini, loin de là, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, de retrouver cette gratuité, de retrouver cet abandon, pour revenir à ce que je disais au début. On s'abandonne parce qu'on a confiance, et la confiance est une des palettes essentielles de l'amour. Très bon dimanche, très bonne semaine, prenez soin de vous et bon courage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.